de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta, dimanche le 10 mai 2020. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. L'Organisation mondiale de la santé appelle le nouveau vaccin sera disponible à la fin de 2021. Les États-Unis resserrent le permis de visa pour les journalistes chinois. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le marché de Wuhan avait un rôle dans la propagation du virus corona. Lancer le livre bleu l'Union européenne-ASEAN 2020, l'Union européenne invite l'ASEAN à intensifier la coopération contre une pandémie. Problème sur ABK Dilarung, BP2MI dit que la Chine doit être ferme. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative dit que le promoteur doit avoir une nouvelle procédure opérationnelle standard pour organiser l'événement. Et voici les journaux incomplets. L'Organisation mondiale de la santé a dit qu'il est peu probable qu'on trouve un vaccin avant la fin de 2021. On considère le développement et la distribution massive de vaccins comme le moyen le plus probable de contrôler la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du monde ont investi massivement dans la recherche sur les vaccins, car les sociétés pharmaceutiques, les start-up, les universités et les instituts de recherche travaillent toujours pour développer des vaccins. Trois des plus grandes sociétés pharmaceutiques américaines sont Inovio, Moderna et Pfizer, ont entamé des essais cliniques comme première étape de développement du vaccin. En Angleterre, des chercheurs de l'Université d'Oxford, soutenus par le gouvernement, déclarent vouloir produire des vaccins à l'automne. Fisher, le chef du réseau mondial d'alerte et de riposte aux épidémies de l'Organisation mondiale de la santé, a été rapporté par Al Arabiya samedi dernier, affirmant que l'année prochaine était une attente très raisonnable. Selon lui, parce que le vaccin qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques est en phase 1 du processus de développement. Les vaccins doivent également passer par les essais de phase 2 et 3 pour garantir leur sécurité et leur fiabilité. Le gouvernement des États-Unis et le gouvernement de la République populaire de Chine ont de nouveau été impliqués dans des tensions dans une série d'actions de répression impliquant des journalistes ces derniers mois, comme l'a rapporté Reuters samedi dernier. Le gouvernement américain a déjà publié une nouvelle réglementation sur le resserrement des directives d'octroi de visa pour les journalistes venant de Chine. Selon les États-Unis, on a pris cette mesure en représailles pour le traitement de plusieurs journalistes américains en Chine. Selon Reuters, il s'agit d'un changement survenu au milieu des tensions entre les deux pays en raison de l'éclosion de la pandémie mondiale de coronavirus. Auparavant, on avait accusé la Chine d'expulser des journalistes des trois journaux américains ou un mois après que les États-Unis avaient annoncé qu'ils commenceraient à traiter ces médias chinois opérant aux États-Unis avec le même traitement que les autres ambassades étrangères. Un marché de gros au centre de Wuhan, en Chine, a joué un rôle dans la propagation du nouveau virus corona l'année dernière, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les autorités chinoises ont fermé le marché en janvier afin de stopper la propagation du virus et ordonné une interdiction temporaire du commerce et de la consommation d'animaux sauvages. Dr. Peter Ben-Emberek, expert de l'Organisation mondiale de la santé sur la sécurité sanitaire des aliments et le virus zoonotique qui traverse la barrière des espèces des animaux aux humains, a déclaré que le marché avait joué un rôle dans cette tragédie. Mais quel est son rôle? On ne le sait pas, que ce soit en tant que source ou qui élargit la propagation, ou simplement par coïncidence qu'un certain nombre de cas ont été détectés sur et autour du marché. Peter Ben-Emberek, lors d'une conférence de presse à Genève vendredi dernier, a déclaré qu'il n'était pas clair si des animaux vivants ou des commerçants ou acheteurs infectés ont pu mettre le virus sur le marché. Le secrétaire des Affaires étrangères des États-Unis, Mike Pompeo, a déclaré qu'il y avait une grande quantité de preuves que le virus provenait d'un laboratoire à Wuhan, bien qu'il ait également déclaré qu'il n'y avait aucune certitude. L'ambassadeur de l'Union européenne auprès de l'ASEAN, Igor Drismans, a lancé le rapport de coopération de l'Union européenne-ASEAN Blue Book 2020 vendredi à Jakarta. Le livre bleu est une publication annuelle sur la coopération entre l'Union européenne et l'ASEAN. Cette année, le livre bleu, ou Blue Book, dont le thème est « Partenaire naturel », qui reflète la coopération de l'Union européenne et de l'ASEAN, qui couvre les questions de commerce et d'intégration économique, de connectivité, de dialogue politique et d'atténuation du changement climatique et de l'environnement. Dans ses remarques, Igor Drismans a souligné les conditions mondiales affectées par la pandémie du coronavirus. Selon lui, à l'avenir, le programme de coopération entre l'Union européenne et l'ASEAN sera davantage axé sur les efforts de répondre à la pandémie. Auparavant, l'Union européenne a distribué une aide d'un montant de 350 millions d'euros pour soutenir les efforts de lutte contre la pandémie de l'ASEAN. Igor a déclaré qu'en tant que partenaire, l'Union européenne a soutenu l'ASEAN pour faire un effort collectif en tant que région pour faire face à la pandémie de coronavirus. Selon Igor, aujourd'hui, nous ressentons les effets du coronavirus. Et les deux parties ont décidé de travailler ensemble le 20 mars où le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Santé ont discuté virtuellement des efforts conjoints pour lutter contre le coronavirus. C'est une résistance internationale. La solidarité internationale, l'intégrité internationale et la coopération internationale sont les clés de la lutte contre le coronavirus. Il n'est pas pour propre intérêt, mais pour s'entraider. Pour cela, les efforts ne manqueront pas de sauver mutuellement. Concernant la coopération entre l'Union européenne et l'ASEAN, l'ambassadeur Igor Drismans a déclaré que la coopération entre les deux régions avait mieux progressé. Les deux parties ont collaboré sur une variété de questions telles que le changement climatique, la sécurité maritime, l'économie numérique et l'informatisation à haute puissance. Selon lui, jusqu'à présent, l'Union européenne reste le premier partenaire de développement de l'ASEAN avec un portefeuille de 250 milliards d'euros. L'investissement de l'Union européenne dans l'ASEAN est enregistré comme l'investissement le plus élevé et le deuxième partenaire commercial de l'ASEAN. Cette collaboration devrait continuer à s'améliorer à l'avenir. Le cas de l'exploitation et de l'élimination des corps de deux membres d'équipage indonésien sur le bateau de pêche Longsin C29 était viral en Indonésie. C'est également une préoccupation particulière du gouvernement indonésien. Le chef de l'Agence indonésienne de protection des travailleurs migrants, ou abrégé en BP2MI, Benny Ramdhani, a déclaré samedi à Radio République Indonésia que le gouvernement chinois devait avoir le courage d'imposer des sanctions strictes aux entreprises qui emploient l'équipage. En outre, il a demandé au ministère des Affaires étrangères de publier des notes diplomatiques concernant les droits qui doivent être obtenus par ABK et sa famille. Parce que cela implique entre l'Indonésie et le gouvernement chinois. Après avoir vu le contrat de travail ABK, BP2MI a quelques notes. La note inclut un comportement déloyal envers l'ABK indonésien. Benny a regretté qu'ABK indonésien n'ait pas obtenu leurs droits en travaillant. Selon lui, l'État doit vraiment être présent pour résoudre ce problème. Surtout si ses prétendus sont corrects. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative encourage les promoteurs d'événements à avoir des procédures opérationnelles standards pour organiser des événements afin de préparer des événements pour de nouvelles conditions normales et post-pandémiques de COVID-19. Le vice-président des produits touristiques et des activités d'organisation du ministère du Tourisme et de l'Économie créative, Rizky Handayani Mustafa, dans sa déclaration de samedi, a expliqué l'importance de préparer désormais des nouvelles procédures opérationnelles standards pour les promoteurs d'événements afin d'anticiper les demandes d'organisation d'événements dans de nouvelles conditions normales. On dit que l'industrie des organisateurs d'événements est l'industrie la plus touchée par rapport aux autres industries en raison de sa nature qui rassemble beaucoup de personnes. Post-pandémique ou dans la nouvelle période normale, il doit formuler et mettre en œuvre de nouvelles procédures opérationnelles standards dans le monde des événements, notamment sur la santé et l'hygiène. Rizky Handayani a expliqué qu'en 2021, quand on prévoyait la fin de la pandémie, tous espéraient que les promoteurs pourraient organiser un événement international et promouvoir des événements en Indonésie pour attirer les touristes étrangers. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir à tous. Voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « Le président a demandé aux ministres et aux chefs d'institution de se concentrer sur le contrôle rapide de COVID-19. » Le président Joko Widodo a rappelé aux ministres et aux chefs d'institution lors de la session plénière du cabinet mercredi dernier que l'objectif principal du travail est toujours de contrôler et de réduire COVID-19 le plus rapidement et de gérer les impacts. Pour cette raison, le président a demandé à tous les ministres, chefs d'institution, commandants du TNI et chefs de la police nationale de mettre toute leur énergie, leur effort et leur force. Le président a fixé un objectif ce mois de mai. La courbe devrait diminuer et prendre une position modérée en juin. Puis en juillet, elle devrait être plus décroissante dans la position basse. Selon le président, non seulement Gugus Tugas ou le groupe de travail, mais on a également impliqué tous les éléments de la nation, les rangs du gouvernement,
les organisations sociales, les bénévoles, les partis politiques et le secteur privé. Le président estime, si toutes les parties s'unissent et appliquent la discipline d'effectuer les protocoles de santé, tous les plans préparés, ils se réaliseront pour résoudre rapidement COVID-19. En outre, le président a également rappelé tous les niveaux de gouvernement à véritablement adhérer aux principes de bonne gouvernance, de transparence et de responsabilité. Selon le président, l'objectif n'est qu'un seul, c'est la sécurité de tous les citoyens dans le domaine de la santé ou bien dans le domaine du socio-économique. Pour atteindre cet objectif, selon le président, le gouvernement doit agir rapidement car la situation est extraordinaire, ce qui nécessite rapidité et précision. Tandis que le président du groupe de travail pour l'accélération de la gestion de COVID-19, l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Denis Monardot, a publié la lettre circulaire numéro 4 de 2020 concernant les critères de restriction de voyage pour la gestion de COVID-19 mercredi dernier. La lettre réglemente la politique d'interdiction du modique ou retour au village. Dans une déclaration officielle au Centre des médias de Jakarta, Denis Monardot a déclaré que par la lettre, le groupe de travail a également montré la fermeté du gouvernement qu'il n'y avait pas de relâchement dans les réglementations stipulées relatives au retour au village. On l'a fait pour briser la chaîne de propagation de COVID-19. C'est tout la mise au point de la semaine.
Chers amis, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 10 mai. Le 10 mai 1940, les forces allemandes ont attaqué la France, la Belgique et les Pays-Bas. De façon inattendue, l'Allemagne envahit la France, la Belgique et les Pays-Bas. Les Pays-Bas et la Belgique sont accablés par la tactique Blitzkrieg, soit la guerre éclair, qui se passe très rapidement. Blitzkrieg est une stratégie militaire dans laquelle les forces allemandes attaque rapidement à partir de divers éléments. Les forces armées allemandes combinent et coordonnent leurs forces aériennes, navales et terrestres. Des attaques soudaines, rapides et inattendues ont provoqué un sentiment de panique dans les forces de défense françaises, belges et néerlandaises. Le concept de la stratégie de la guerre éclair en général est toujours appliqué par les militaires. Le 10 mai 1994, Nelson Mandela a été nommé premier président noir de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela a été élu président et a exercé les fonctions de président de l'Afrique du Sud du 10 mai 1994 au 14 juin 1999. Mandela est devenu le premier président noir avec Willem de Kleur en tant que vice-président. Mandela est également considéré comme une figure anti-discrimination pour les Noirs ou l'apartheid, bien qu'il a été emprisonné pendant 27 ans par le gouvernement de l'apartheid. Dans son premier discours en tant que président, Mandela a en réalité appelé à la paix. Le gouvernement Mandela s'est concentré sur les efforts visant à éliminer l'apartheid en luttant contre le racisme, la pauvreté, les inégalités et la réconciliation. Le 10 mai, la Journée mondiale du lupus. La Journée mondiale du lupus, commémorée tous les 10 mai, a été annoncée pour la première fois le 10 mai 2004, lorsque le Conseil international a réuni des organisations internationales spécialisées dans le lupus de 13 pays différents à Eton, en Angleterre, pour célébrer le premier anniversaire de la Journée mondiale du lupus. Cette annonce a pour but de rappeler au gouvernement du monde entier d'accroître leur soutien financier à la recherche sur le lupus, de sensibiliser davantage les patients et d'offrir des services à ces personnes. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi.
Chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie. Bonsoir, chers auditeurs. Le titre de mon Indonésie aujourd'hui est 4 multi-événements étaient les priorités de COI pour 2021. le Comité olympique indonésien ou en indonésien Comité Olympiade Indonesia ou abrégé en COI accorde la priorité à 4 multi-événements internationaux auxquels l'équipe rouge et blanche ou l'équipe indonésienne participera en 2021. Le secrétaire général de COI, Ferry Kono, a déclaré que les 4 multi-événements internationaux étaient les Jeux olympiques de Tokyo, les Jeux d'Asie du Sud-Est du Vietnam, les Jeux de la solidarité islamique et les Jeux asiatiques en salle. À Antara, Ferry a déclaré vendredi dernier, le plan était que les 4 événements deviennent des priorités sur la scène internationale. COI détaille 6 multi-événements internationaux en 2021, à savoir les Jeux asiatiques en salle et d'arts martiaux d'avril en mai, les Jeux olympiques de Tokyo de juillet en août, les Jeux de la solidarité islamique en août, les Jeux mondiaux de la plage de septembre en octobre, les Jeux d'Asie du Sud-Est de Vietnam en novembre, les Jeux asiatiques de plage en novembre, les Jeux asiatiques de la jeunesse en novembre et les Jeux asiatiques d'hiver qu'on n'a pas encore déterminé l'horaire. Mais, en raison de beaucoup d'agendas sportifs en 2021, il existe un risque de dépassement budgétaire. Par conséquent, COI ne donne la priorité qu'à 4 multi-événements où l'Indonésie doit participer. Tandis que pour la participation de l'équipe indonésienne aux autres événements, il a pleinement soumis la décision au gouvernement, en l'occurrence au ministère de la Jeunesse et des Sports. Selon Ferry Kono, dans la proposition, outre les 4 événements prioritaires, il y avait également d'autres événements, tels que la participation aux Jeux mondiaux de la plage, mais ce n'était pas une priorité. Donc, en plus des 4 événements, ça dépend de la politique et des résultats des études gouvernementales. Ferry Kono a ajouté que la pandémie de COVID-19 a reporté tous les programmes sportifs 2020 et il change de date en année prochaine. Alors, en 2021, on a beaucoup de programmes sportifs à organiser. De plus, l'Indonésie accueillera également deux compétitions internationales en 2021, à savoir la Coupe du Monde à l'âge de 20 ans et le MotoGP de Mandalika. En outre, on a également décidé et reporté la mise en œuvre de la Semaine nationale du sport de Papouasie et de la Semaine nationale paralympique jusqu'en octobre de l'année prochaine. Voilà mon Indonésie d'aujourd'hui.
Sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja.
Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, Nusa Penida est une petite île située au sud-est de l'île de Bali et séparée par le détroit de Badung parce que cette zone borde la mer. Il y a beaucoup de plages à cette île. L'une des plus belles plages de Nusa Penida est Smoke Beach, ou Pasir Dus, ou en français, la plage de fumée. Cette plage se trouve à Banjar Sumpang, au village de Bunga Mekar, au sous-district de Nusa Penida, au district de Klungkung. Non seulement le nom qui est unique, mais cette plage offre également des vues exotiques. L'unique plage de Pasir Dus, dont les vagues sont comme fumées, attire les touristes. Vous pouvez attendre un moment jusqu'à ce que les vagues atteignent une autre falaise. Les éclaboussures d'eau de mer vont pulvériser jusqu'à atteindre 10 mètres de hauteur. En plus d'être unique et agréable, la plage de Pasir Dus est également très belle. Vous pouvez également voir clairement l'île de Nusa Ceningan, située sur la côte est. Vous pouvez également voir des hautes falaises de corail qui sont la limite entre la mer et la terre, qui forment un beau bassin. Non seulement les vagues et les falaises robustes, vous pouvez également trouver la vie marine rare, comme les rails pastenagés et les crapettes dans la mer. Chers auditeurs, l'accès à la plage de fumée est un peu difficile car vous devez passer des routes rocheuses. Alors, pour visiter la plage de fumée, vous devez bien préparer votre véhicule et votre physique. Le prix d'entrée à la plage est seulement 10 000 rupiah par voiture. Et n'oubliez pas d'apporter une caméra pour capturer chaque moment spécial. Si vous êtes courageux, vous pouvez prendre des photos avec le fond des vagues incroyables. Vous devez être prudent. Voici le magazine culturel de Voice of Indonesia.
Masih mencintaimu. seperti kenyataan berbagi cinta selain diriku. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku. Tak ingin ku bertahan meski kadang mendendam. Akankah kau bahagia bila cinta tak ada untuk dirimu lagi? Tak seharusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh darimu. Apa yang ku rasakan tak seperti kenyataan, berbagi cinta selain diriku. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku. Tak ingin ku bertahan mendendam. Akankah kau bahagia bila cinta tak ada untuk dirimu lagi? Oh, 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 oh. Kembali
auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Voice of Indonesia avec l'Indonésie en couleur. Cette édition va parler de la façon unique d'Aceh de boire du café. Le café est une boisson familière pour les Indonésiens. Au quotidien, le café complète souvent diverses activités, au travail ou à la détente. Pour les habitants d'Aceh, boire du café fait partie intégrante de la culture. Si vous visitez Aceh, vous trouverez facilement des cafés qui ne sont pas presque jamais vides de visiteurs. La région d'Aceh est connue comme l'un des meilleurs producteurs de café d'Indonésie. En plus d'avoir un café de haute qualité, les Acehnais ont également une façon unique de le servir en plaçant le verre à l'envers sur une petite assiette. Ce café s'appelle Kopi Kop, qui vient de la langue achehnaise. Kopi signifie café et Kop signifie à l'envers. Ce café vient de Malabo et continue de s'étendre jusqu'à un certain nombre de régions d'Aceh jusqu'à maintenant. Le café infusé est servi avec un verre inversé sur une petite assiette avec une paille. Il suffit de glisser la paille dans le verre, puis de donner une petite bouffée. Le café liquide s'écoulera du verre. En raison de sa présentation unique, le gouvernement d'Aceh envisage de proposer Kopi Kop en tant que patrimoine culturel immatériel. Le responsable de la division des langues et des arts de l'Office de la culture et du tourisme d'Aceh, Suburhan SH, a déclaré que Kopi Kop était l'un des produits de qualité supérieure qui présente une valeur marchande et se distingue de l'histoire d'Aceh de l'Ouest. Selon lui, le terme Kopi Kop est sorti des derniers mots de Tengku Umar avant d'être abattu alors qu'il se battait contre les Hollandais. Le héros Acehnais a invité de boire du café ensemble avant la guerre. La philosophie de la présentation unique de Kopi Kop est basée sur les habitudes des Acehnais qui aiment s'attarder en buvant du café. La position du verre est à l'envers, ce qui protège le café de la pollution et maintient le niveau acide du café. Voilà l'Indonésie en couleur sur la façon unique d'Aceh de boire du café.
Resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Berpisah itu mudah,
dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles à Voice of Indonesia. L'équipe de l'émission française de Voice of Indonesia vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, les rapports d'écoute et les messages. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et comme d'habitude, nous allons également présenter une chanson indonésienne. Dans cette édition, je vais vous présenter une chanson de Firgun et Last Child. Après de nombreuses réalisations de Firgun pour son projet solo en 2018, il a de nouveau créé d'autres œuvres. Et cette fois-ci, il a coopéré avec le groupe qui a porté son nom, Last Child. La chanson s'intitule Maha Pemilik Hati, sortie le 4 mai 2019. C'est leur deuxième chanson religieuse et en 2011, ils ont publié une chanson religieuse intitulée Percayalah ou en français Croyez. Bon, chers amis, maintenant je vais dire bonjour à Lassas Omar de BP 530 de bureau de poste Emir Aïka de 9008 Maskara, Algérie. Merci pour votre email le 10 mai 2019. Et je vais le lire. Bonsoir, chers amis, l'équipe du service français de la Voix de l'Indonésie. J'espère que vous allez très bien et être tous en bonne santé. Et tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter ainsi que tous les peuples indonésiens et tous les musulmans dans le monde entier à l'occasion du mois sacré. Je voudrais vous souhaiter un bon et un excellent Ramadan, que ce mois sacré vous apporte la santé, la joie et la prospérité, et que ce mois sacré soit un mois de paix, de générosité, que Dieu agrée notre jeûne et renforce notre foi. Dans l'espoir d'un prochain message, veuillez accepter, chers amis, mes grands respects. Merci Lassas Omar de votre email et restez toujours en contact avec nous. Encore en Algérie pour passer le bonjour à Merdin Mourad de BP en 54 bicétif en 9000 Algérie et à Abdelilah Boubhir de 05 rue Larej Bouchentouf de 2000 Sidi Belabès Algérie. Comment ça va mes amis? Je voudrais vous souhaiter un bon Ramadan, que ce mois sacré soit un mois de paix et vous apporter la santé. Bien le bonjour en France à Maurice Mercier, précisément à 537 rue François Giraud, 69400 Villefranche-sur-Saône, et Jean-Marie Monplot de 409 Faubourg Montmélian, de 73000 Chambéry, France, et M. Christian Jubodeau de la rue Gaston Carbonnier, 06300 Nice, la France. Et je reste en France pour saluer Grandin René de 25 Terre 2 Chemin de Rose de 97418 Plaine de Cafre, île de la Réunion, Océan Indien. Merci pour le rapport d'écoute et soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia. Passons également le bonjour à Mauro Giroletti, SWL1510. IK2GFT via Marzabotto de 720090 Bucinesco, Italie, et aussi pour Sergi Giovanni via Sibari 398149 Messina, l'Italie. Chers amis, nous sommes très heureux de recevoir vos lettres, mails et messages de tous les coins du monde. Nous attendons avec impatience d'autres lettres et rapports d'écoute. Nous vous remercions aussi pour la carte postale. C'est toute l'édition de Courrier en musique aujourd'hui. Pour la clôture, une chanson que vous allez écouter, intitulée Maha Pemilik Hati, présentée par Firgun et Last Child. Bonne écoute et à la semaine prochaine.
Wahai engkau yang detakkan jantungku, panjangkan napasku di dalam rahmatmu. Aku memohon terimalah taubatku. Di dalam doaku akui semua. Aku makhluk yang tak sempurna, yang tersesatkan oleh dunia. Berlindung kepadamu, memohon kepadamu agar menunjukkan jalanmu. Aku makhluk yang penuh dosa, aku makhluk yang penuh hina. Datang ke hadapanmu, sujud kepadamu, wahai kau zat yang berhak atas hidupku. Kepadamu maha pemilik hati, tetapkan hatiku dalam hidayahmu.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.